Alors, on va étudier ce matin Genèse, chapitre 26, versets 26 à 35. Genèse, chapitre 26, versets 6 à 35. Abimélec vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et ils dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Behéri, le Hittien, et Basmat, fille d'Élon, le Hittien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Alors, si Dieu veut s'asseoir. Alors, j'ai intitulé ce matin le sermon de façon très simple. Le Seigneur éprouve Isaac par l'amertume. On voit que depuis quelques semaines, on est dans l'épreuve. Dieu éprouve les siens. On avait vu d'abord que Isaac avait voulu descendre en Égypte. Le Seigneur lui avait dit de ne descendre pas en Égypte. Et lorsqu'il avait obéi, ça l'a fait en sorte qu'il était béni. Mais on a vu qu'à la suite, il y a eu une faiblesse. Il a voulu dire que sa femme, c'est sa sœur, et ça l'a amené un problème énorme avec Abimélec qui aurait pu avoir des conséquences énormes. Donc, il est sorti de ça, il a appris des choses. Quand on obéit, ça va bien. Quand on désobéit, ça va mal. Et il aperçoit aussi que ses péchés auraient pu avoir des très, très, très graves conséquences sur beaucoup de personnes, y compris possiblement la mort. La semaine dernière, on avait regardé que le Seigneur l'avait éprouvé par une autre façon, qui était la prospérité. Quand le Seigneur t'envoie beaucoup de prospérité, il y a un très grave danger qui est relié aussi à la prospérité. Donc, on avait vu que ça l'avait amené l'envie, les Philistins, et que les Philistins, par envie, ont bouché toutes les... On sait l'importance des puits à cette époque-là. Donc c'était l'endroit où tu faisais aller boire tes animaux, ce qui est essentiel, et boucher, c'était d'une grande méchanceté. Il faut se souvenir de cela, de ce qu'on a regardé la semaine passée, pour bien comprendre ce qui se passe cette semaine. Sinon, si on ne se souvient pas de ça, quelque part, on ne comprend pas vraiment le texte. Alors, il y avait eu la méchanceté répétée de boucher ses puits. Il y avait eu aussi la violation d'une alliance, parce que Abraham avait fait une alliance avec Abimélec, concernant qu'il se respecterait concernant les puits. On sait qu'ils l'ont brisé. Donc, ils ont brisé une alliance en plus d'être méchants, d'avoir bouché les puits. Et il y avait eu une autre méchanceté qui avait été produite, c'était celle de l'expulsion du pays. On ne veut plus t'avoir déguerpé. Alors, quelque part, quand on lit la suite cette semaine, qui vient le voir et dit nous ne t'avons fait que du bien, on se dit peut-être qu'il a tendance à exagérer sa bonté. Là. Alors, le Seigneur a, bien entendu, s'est servi de cette expérience-là pour lui enseigner plusieurs choses. La douceur. Quand quelqu'un t'attaque, il ne faut pas te répondre avec la méchanceté, toi aussi, parce que ça aboutira jamais. Alors, il lui a montré la douceur. Il lui a montré aussi la patience. Dieu se sert des événements qu'il permet dans nos vies pour nous éprouver, pour améliorer notre patience. Et quand on s'examine le moindrement, sérieusement, on s'aperçoit que de la patience, on a besoin plus qu'on en a ordinairement. La persévérance aussi, parce que qu'est-ce qu'il faisait? Suite à ce que l'autre venait remplir ses puits. Il ne disait pas, ben là, moi, je laisse tomber. Il en creusait un autre. Il revenait, il le rebouchait, il en creusait un autre. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Quand quelqu'un te traite mal, ne réagis pas par la méchanceté, réagis par le bien et persévère dans le bien. C'est pas facile. Ces leçons-là sont des Écritures, pas pour rien. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que l'Ancien Testament nous a été donné pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. C'est pas moi qui le dis, là, c'est Dieu qui le dit. L'Ancien Testament nous a été donné pour nous servir d'instruction. Si on lit le texte puis on s'approprie aucune leçon pour notre vie de tous les jours, on n'a rien compris, on est en surface. On fait juste lire, on ne comprend rien, on ne s'applique rien. Le Seigneur nous a donné toute la Bible pour qu'on comprenne quelque chose et qu'on applique ce qu'il nous enseigne. Aussi la persévérance, il aussi lui a montré par la même occasion la sagesse. Mais on se rapportait à dire, il fait deux grosses épreuves qu'il lui envoie, on se rapportait à dire, mais ça, c'est assez, là. Il en a envoyé un autre. Alors, les épreuves d'Isaac ne sont pas terminées. Isaac va aussi expérimenter ce qu'on appelle l'amertume de l'opportunisme. On va tout définir ça tout à l'heure. L'amertume, c'est quelque chose qui est amer, quelque chose qu'on a de la difficulté à avaler. C'est amer, c'est dur à avaler. Alors, et aussi la grande déception, parce que les deux derniers versets nous parlent de la grande déception qu'il a eue face au choix que son fils a fait de marier des païennes. Alors, et on va voir que tout cela, ça va avoir non seulement une grande importance sur le moment, là, mais que plus tard, quand on va lire la Bible, Ésaü, Édom, va voir qu'ils sont devenus des ennemis d'Israël. Alors, les choix, les mauvais choix qu'on fait dans certains moments de notre vie chrétienne ont des répercussions sur le reste de nos vies. Ça, n'oublions pas ça non plus. Alors, on va voir le thème de ce matin, c'est que le Seigneur éprouve Isaac par l'amertume. Autrement dit, il va lui faire vivre des choses qui sont amères. Des personnes qui viennent vous voir après avoir été extrêmement méchants envers vous, comme on a vu la semaine passée, et qui disent « On voit que le Seigneur te bénit, là, et on n'aimerait pas ça que tu nous attaques. On voudrait signer. Nous autres, quand tu es venu chez nous, on t'a toujours bien traité. » Ça devait être dur à avaler pour Isaac. Alors, les Écritures nous disent, dans 1 Pierre, au chapitre 1, versets 6 et 7, « En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut. » Le Seigneur, il dit, les épreuves, les envoie pas pour le fun, il le faut, ça vous les prend, parce que les épreuves servent à vous montrer des choses importantes de la vie. Verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, » autrement dit, est en train de nous dire que les épreuves que le Seigneur nous envoie, c'est plus précieux que de l'or. Ça nous fait réfléchir, hein? Puis nous autres, des fois, on ne les reçoit pas avec joie, là. Mais il nous dit que c'est juste attristé pour un peu de temps. Il dit, « Éprouvé par le feu, vous tourne à la louange, à l'honneur, et à gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ, siècle. Amen. » Alors, quelque part, il est en train de nous dire qu'un jour, on va se rendre compte, lors de l'avènement du Seigneur, de l'œuvre qu'il a fait en nous par les épreuves, et il dit que c'est plus précieux que l'or. À quelque part, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13. « Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. » Autrement dit, il est en train de vous dire, surprenez-vous pas que vous viviez des épreuves dans votre vie. Il parle d'une fournaise. Une fournaise, il dit qu'il est au milieu de vous. Ça chauffe, une fournaise. Pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Verset 13, « Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. » Alors, on va regarder les trois points qu'on veut regarder ce matin. Isaac est éprouvé par l'amertume de ce qu'on pourrait appeler l'opportunisme. Alors, si on veut savoir c'est quoi de l'opportunisme, je suis fouillé dans un dictionnaire, voici ce que ça dit. L'opportunisme, c'est le comportement qui consiste à tirer parti des circonstances à notre avantage, mais en ne respectant pas ou peu les principes moraux. un opportuniste, ils font dire, ah, c'est un méchant opportuniste. Ben, on le sait, c'est quelqu'un qui cherche à tirer les choses à son avantage, mais pour lui, les principes moraux, c'est pas très, très, très important. Alors, les expressions utilisées pour parler de cet état d'esprit-là, on pourrait les dire en québécois, ou ça s'appellerait être effronté. Quelqu'un qui vient te voir, qui t'a fait bien du mal, puis qui te dit, on t'a toujours bien traité, tu dis, lui, il a du front tout le tour de la tête, comme on dit. Ou bien non, il y a une autre expression qu'on utilise au Québec, être culotté. Être culotté, ça veut dire que quelqu'un qui vient te voir, qui t'a fait du mal, puis qui te demande, il te demande une faveur, tu dis, oui, il est culotté pas à peu près, lui-là. Là. Et, ou bien non, avoir du front tout le tour de la tête. Ça, c'est vraiment au Québec qu'on utilise avoir du front tout le tour de la tête. Alors ici, les Philistins, ils viennent voir Isaac, ils ont du front tout le tour de la tête. Parce qu'après avoir bouché ses puits, l'avoir expulsé du pays, ils viennent dire, on t'a toujours bien traité, nous, traite-nous, alliance avec nous. Je me mets dans la peau d'Isaac, mais il me semble que la réaction normale, ça aurait été de dire, attends un petit peu, j'ai quelque chose à te dire, toi, là, là. Mais voyez que la façon dont lui, il l'utilise. Alors, on va regarder l'opportunisme qui va être exprimé par une requête qu'on pourrait dire qui est effrontée. Versets 26 et 27. Et Abimélec vint vers lui de Guérar avec Ahuzath, son ami, et Picol, le chef de son armée. Mais Isaac leur dit, « Voyez-vous, il y a moyen de dire les choses sans sombrer dans la colère, sans sombrer dans perdre les pédales, comme on dit. » Mais Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi quand vous me haïssez? » Il ramène la vérité d'en face. Mais tout est dans la façon de le dire. Il dit, « Pourquoi venez-vous vers moi quand vous me haïssiez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Alors, il leur ramène la vérité, mais d'une manière, je dirais, c'est la vérité, mais c'est quand même diplomate. Il aurait pu dire, « Toi, là, t'as bouché tous mes puits, là, tu m'as sacré dehors de ton pays, puis t'as le front de venir me demander ça. » C'est ça qu'il aurait pu dire. Mais non, voyez-vous, le Seigneur nous apprend une autre façon de réagir face à des personnes qui ont du front. Ça va vous arriver dans votre vie. C'est arrivé dans la mienne, ça va arriver dans la vôtre. Fiez-vous sur moi. Alors, dans notre étude précédente du chapitre 26, on avait appris que les Philistins avaient usé de méchanceté et de violence pour s'approprier les puits creusés par les serviteurs d'Isaac, et qu'en plus, ils avaient violé une alliance qui avait été prise avec son père, mais c'était quand même valable encore, au sujet des puits, encore une fois, également. Les Philistins avaient été même jusqu'à l'expulser du pays par jalousie. Alors, après avoir agi de la sorte, il faut être culotté pour venir voir ceux qu'ils ont persécutés et leur demander une faveur. Si ça vous arrive dans votre vie, là, qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, puis qu'après, il y a le front de venir vous voir puis vous demander quelque chose, de lui faire du bien, vous allez voir le sentiment qu'il y a à l'intérieur. Là. Il sera porté à aller plus vers la colère, vers l'expression, une explosion de colère, plutôt que de faire... Que... Oui, il lui rappelle la vérité. Vous m'avez ici, vous m'avez jeté dehors de votre pays, mais il ne le fait pas d'une façon qui est déplacé. Alors, ça nous montre une leçon. Il y a moyen de réagir à ceux qui ont des comportements similaires et de réagir comme il faut. Tu peux dire la vérité, mais fais attention à la façon dont tu le dis. Deuxième point qu'on va regarder dans le verset 28, c'est que l'opportunisme est vraiment exprimé par une requête qui est égocentrique. Verset 28. Et là, les Philistins disent, et ils répondirent, « Nous voyons clairement que l'Éternel est avec toi. » Ils voient que Dieu est avec lui, donc, OK, Dieu est avec toi, donc on va avoir une faveur de toi. Et nous disons qu'il y ait donc un serment solennel. Ils ne veulent pas avoir juste un petit serment solennel. Ça, c'est quand tu peux faire les choses de façon solennelle, c'est publiquement, avec emphase. Serment solennel entre nous et toi, et que nous traitions alliance avec toi. Quand quelqu'un qui nous a fait bien du mal vient nous voir et nous demande une faveur comme ça, ça serait quoi notre réaction normale si on n'est pas un enfant de Dieu? On dirait, oui, là. Tu nous en as assez fait, là, je ne vais pas te voir la face ici, puis ça serait de ce style-là. Hein? Alors, qu'est-ce qui les pousse? Bien entendu, c'est l'égoïsme, qui est très certainement. Les personnes irrégénérées en général sont égoïstes et qui ne connaissent pas Dieu. Alors, ils viennent solliciter Isaac parce qu'ils voient que le Seigneur l'a béni. Et ils ont probablement une peur aussi, dans le sens que si Isaac continue de s'enrichir comme il s'était enrichi avant, il va y avoir de plus en plus de monde qui vont se joindre à lui, et nous, militairement, pas rien qu'il a emmené son chef de l'armée avec lui. Militairement, ils se sentaient menacés. Alors, ils ont du front en demandant à Isaac à s'engager par serment à ne pas leur nuire après tout ce qu'ils lui ont fait subir. Verset 29, c'est vraiment l'opportunisme exprimé par le mensonge. La manière dont ils disent, ça a l'air bien à première surface, là, mais si tu te souviens des quelques versets avant, là, ça dit, il dit, « Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point touché et que nous t'avons fait que du bien. » Après, du front, dit une phrase pareille après ce que tu as fait là. Il bouche tes puits, sac dehors du pays, il brise une alliance, puis ils viennent te dire, « Nous jours, là, quand tu es venu chez nous, on t'a fait du bien, tu comprends pas? » Et misère. Et nous t'avons laissé partir en paix. Voyez-vous, dans leur mensonge, il y a une partie de vérité. Parce qu'ils l'ont laissé sortir du pays, mais ils n'ont pas attaqué ses biens, ni les personnes qui étaient avec lui. Donc, il y a quelque chose d'un peu vrai dans ce qu'il dit. Un peu vrai. Il dit, nous t'avons laissé sortir en paix. Ça, c'est la partie un peu vraie. Va-t'en, là, amène toutes tes bêtes, amène tout ton monde, on ne t'attaque pas, mais va-t'en. À quelque part, donc, nous ne t'avons fait que du bien, et c'est fort, tiré par les cheveux, pas mal. Alors, tu es maintenant béni de l'Éternel, ben, c'est sûr, c'est toi que tu es béni, nous autres, bénis-nous, et t'engages-toi par serment à ne pas nous attaquer. Alors, bien sûr, les Philistins désirent ressusciter l'alliance que Abraham avait prise avec Abimélec. Alors, il y avait vraiment agi méchamment, en bouchant à répétition les puits creusés par Isaac et en lui cherchant querelle systématiquement. Si quelqu'un vous cherche querelle systématiquement, tu sais, des fois, il y en a qui disent, « Si tu me cherches, tu vas me trouver. » Bien, lui, ils l'ont cherché, puis il ne s'est jamais laissé trouver dans le sens que dire, « Là, c'est assez, tu me cherches, mais tu vas me trouver. » Alors, c'est vrai qu'il y avait la vérité dans le sens qu'ils ne se sont pas approprié ses biens, puis ils n'ont pas fait de mal physique quand ils ont quitté le pays. Alors, leur motivation était possiblement inspirée par la puissance d'Isaac, qui voyait que Dieu bénissait, et quand Dieu bénit, le troupeau augmente, le nombre de personnes augmente, alors c'était bien plus par opportuniste, il avait peur de que ça se retourne contre eux, là, ils viennent lui demander une faveur. Alors, l'opportunisme par le mensonge. Là, le deuxième point qu'on va regarder, c'est l'amertume de l'impiété de son fils Isaü. Donc ça, mais on va voir tantôt aussi certaines choses que Dieu lui a montrées. Dans le troisième point, on va regarder ça. Mais pour le moment, on va regarder que comment son fils, qui était Isaü, quand on est des parents chrétiens, qu'on a élevé nos enfants chrétiennement, et qu'on les voit prendre des mauvaises trails, comme on dit en québécois, ça fait mal au cœur, et ça, c'est amer. Un peu comme lui. Son fils, Isaac, il choisit délibérément de marier deux païennes. Alors, ça dit dans le verset 34 et 35, « Or, Isaü était âgé de 40 ans, il s'est marié assez vieux. Il prit pour femme Judith, fils de Behéri, le Héthien, et Basmat, fille d'Élon, le Héthien. » On va revenir un petit peu tout à l'heure sur c'est à qui les Héthiens. Vous allez voir que d'avoir choisi volontairement des femmes de cette nation-là, on va voir tantôt que chez les Cananéens, les pires, c'était les Héthiens. Alors, c'est un peu comme aujourd'hui, un chrétien qui a élevé son enfant chrétiennement, puis non seulement elle se marie avec un païen ou des païens, mais elle se marie avec les pires des païens. Alors, ça amènera-tu de l'amertume dans ton petit cœur, à mon dit? Je pense que oui. Alors, l'impiété d'Ésaü contre la loi de Dieu. Le Seigneur avait déjà éclairé les hommes en leur déclarant sa volonté du mariage monogame. Même s'il y en a eu deux, même il y en a eu trois, puis dépendamment des versions ou des commentaires, il y en a qui disent trois ou quatre. En tout cas, c'était un petit peu complexe. En tout cas, on ne fera pas ça cette semaine, mais dans le fond, il y en a eu trois, puis possiblement quatre, parce que dépendamment des noms, les noms et l'origine de sa femme est un petit peu difficile à mettre de l'ordre là-dedans. Mais Genèse 2, 24, le Seigneur avait dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, en prenant plusieurs femmes, comme je l'ai mentionné, c'est trois ou quatre, Ésaü s'enracine dans la rébellion. Il sait que Dieu ne veut pas, mais il fait pareil. Et il s'enracine aussi dans la désobéissance. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On forge notre caractère. Notre caractère est forgé par les décisions morales qu'on prend. Alors, les Écritures parlent de lui aussi un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament. Ils le décrivent comme un fornicateur. Hébreux, chapitre 12, versets 15 et 16. Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait point de fornicateur ni de profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Alors les Écritures parlent de lui comme étant un fornicateur. Fornicateur, on le sait, la fornication, c'est les relations sexuelles hors mariage. Mais lui, il s'est marié avec des païens. Mais les Écritures le définissent comme étant un fornicateur. C'était aussi l'impiété. Alors, l'amertume vient de l'impiété d'Ésaü contre la volonté de Dieu. Ésaü connaissait très certainement la pensée et la résolution de son grand-père, qui était Abraham, concernant le danger des mariages avec des nations païennes environnantes. Ici, je pense qu'il y a un moment où on peut faire une petite parenthèse. Se marier avec un païen, quand on est chrétien, c'est quelque chose de beaucoup plus grave qu'on pense. Moi, j'ai vu dans ma vie chrétienne plusieurs cas qui ont tourné à la catastrophe. J'ai vu quelques cas où le Seigneur a fait grâce en permettant que le conjoint qui était païen se convertisse. Mais il ne faut pas se fier là-dessus. Si quelqu'un se marie en disant « c'est un païen, mais j'ai confiance que Dieu va le sauver », ça ne marche pas tout le temps, je vous le dis, j'ai vu des cas désespérés. Une femme que j'ai connue, un temps j'étais à l'école biblique, elle avait marié un gars qui venait du pas loin de, en tout cas, les pays chauds, là, je ne sais plus du pays. Puis je vous le dis une chose, elle avait marié tout un numéro. Nous, on la regardait et on disait « oh ». Elle était missionnaire, puis quand elle avait été dans ce pays-là, elle était amourachée de ce gars-là. Elle l'avait marié en croyant que le Seigneur, plus tard, lui ferait grâce. Dans son cas, elle, ça ne lui est pas arrivé. Elle a vécu toute sa vie avec. Puis il était bête comme ses pieds. Lucie pourrait vous en témoigner. Il était épouvantable. Alors, quelque part, c'est une petite leçon pour nous aussi. On lit le texte, mais marier des païennes, c'est... Ou un chrétien qui marie une païenne, ou une chrétienne qui marie un païen, c'est rare que c'est des bénédictions. Alors, dans son commentaire sur la Bible, Matthew Poole déclare que les Hittiens, ou les Hittites, dépendamment des versions, il y en a qui disent Hittiens, il y en a qui disent Hittites, comme les pires des Cananéens. Alors, Ézéchiel 16, versets 1 à 3. « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en disant, « Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, ton extraction et ta naissance sont de la terre du Cananéen. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. » Qu'est-ce que cette nation... Si on dit que c'était les pires, ben, on peut-tu savoir en quoi elle était pire? Les Canadiens, dans leur ensemble, étaient des gens qui étaient caractérisés par leur immoralité sexuelle. Autrement dit, tout ce qui était dérèglement sexuel défendu par les Écritures, les Canadiens étaient là-dedans jusqu'aux oreilles. Deuxièmement, c'était des gens qui pratiquaient la grossière idolâtrie. Et aussi, ils pratiquaient, et ça c'était les Hittiens, et possiblement aussi d'autres Cananéens, mais pratiquaient le sacrifice d'enfants. Il y avait des dieux, Moloch entre autres, où on prenait ton propre enfant, là, ton bébé, là, puis tu le faisais brûler pour obtenir des faveurs de Satan ou du malin. Alors, il ne mariait pas une Étienne qui venait d'un milieu qu'on pourrait dire moralement sain, ou bien au contraire. Alors, il y avait des sacrifices d'enfants, c'était des pratiques courantes chez les Cananéens. Alors, s'allier par mariage avec ces nations-là comportait de très grands dangers. J'ai lu un petit peu sur les. Un petit peu plus tard, j'ai fait des recherches pour savoir les Hittiens, les Hittites, dépendamment des versions. Et on dit qu'ils ont fait des recherches, les archéologues ont fait des recherches dans les endroits où ces nations-là, ils ont découvert des champs couverts d'ossements humains qui étaient des ossements d'enfants qui avaient été brûlés. À quelque part, Ésaü. Il décide de se marier avec deux filles qui venaient de cette région-là. Qu'est-ce que vous pensez que ça a eu comme influence sur sa vie? Normalement, le Seigneur, pourquoi il ne voulait pas que les Juifs aillent avec les autres nations? Parce qu'il dit, vous allez aller adorer leur Dieu. Vous allez faire comme ils font. Puis, alors, Ésaü faisait une erreur monumentale. Alors, Exode, chapitre 23, versets 28 à 33, on va voir qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport aux nations étrangères. Il dit, « J'enverrai le frêlon devant toi, et il chassera les Héviens, les Cananéens et les Hittiens devant ta face. Je ne les chasserai pas de devant ta face en une seule année, de peur que la terre ne devienne déserte et que les animaux des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu devant ta face jusqu'à ce que tu fructifies et que tu hérite de la terre. Et je poserai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants de la terre et tu les chasseras devant ta face. Tu ne traiteras point alliance avec eux ni avec leur Dieu. Il n'en restera pas dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi quand tu serviras leur Dieu, car cela te serait un piège. » Et notre ami Ésaü est en train de tomber dans le piège. Et tout le reste des Écritures qui parlent d'Ésaü nous démontrent que c'était une erreur, pas une petite erreur, une erreur monumentale. Alors que ça l'amène de l'amertume dans le cœur du père et de la mère, il ne faut pas se surprendre. Ils voulaient suivre le Seigneur. Et ils voient son fils choisir deux femmes. Puis un petit peu plus tard, même s'il savait que son père et sa mère étaient contre, il a quand même marié une troisième et possiblement une quatrième. Alors, bien sûr, l'impiété d'Ésaü se révèle aussi dans le fait qu'il savait la volonté de ses parents et il a fait le contraire. Ça, il y a une leçon pour les chrétiens, surtout pour les jeunes chrétiens. Écouter les parents, tenir compte de leurs avertissements, tenir compte de leurs conseils, c'est sage. Ne pas en tenir compte. C'est peu sage et ça peut amener des conséquences extrêmement graves, non seulement là, mais plus tard aussi. Alors, on va. Voyons, on va aller dans Genèse 28 au verset 9. Genèse 28 au verset 9 vient nous dire que non seulement il avait pris ces deux-là, mais que ce n'est pas arrêté là. Il a continué plus tard dans son enracinement dans le mal, dans sa rébellion. Genèse 28, versets 8 et 9. Et voyez-vous, regardez bien les mots sont importants. Et Ésaü, voyant que les filles de Canaan étaient mal vues d'Isaac, son père, il s'en alla vers Ismaël, les Arabes, et prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébaïoth. Et il y a d'autres passages. Je vous dis que 3 ou 4, là, ça... alors les théologiens réfléchissent sur si c'est 3, c'est 4, puis ils donnent des raisons si c'est 3 ou si c'est 4. Mais... En tout cas, c'est complexe, ça ne dit pas. Mais ce n'est pas plus important que ça. On sait qu'il s'est marié deux fois avec des Hétiennes, puis une fois avec des descendants d'Ismaël. Alors, quelque part, ça l'amène d'amertume dans nos corps. Mais quand le Seigneur permet de l'amertume dans nos corps comme ça, un ennemi qui revient te voir, qui va avoir une faveur, ou que tes propres enfants, que tu as élevés chrétiennement, mais qui sont en train de prendre un mauvais chemin, le Seigneur t'enseigne des choses à travers de ça. Et je veux vous en nommer 5 des fruits que le Seigneur envoie. Ils sont des conséquences ou un fruit de ton comportement face à ce qu'il t'envoie. Verset, le fruit de la franchise modérée et patiente. Verset 27. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous à moi puisque vous m'haïssiez, que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Voyez-vous, c'est une réponse qui c'est de la franchise, mais c'est modéré. Ça aurait pu être pire que ça. Il me semble de nous voir quand on était païens, que quelqu'un nous aurait fait ça, puis il aurait venu nous présenter une requête culottée comme ça. Et pas sûr qu'il aurait été bien reçu, là. Alors, il dit, oui, vous m'avez fait du mal, vous m'haïssiez, et il dit, vous m'avez jeté dehors de votre pays. Mais il développe, il aurait pu développer bien plus que ça, là. Puis la fois que tu as bouché mon puits, t'as le plat. Puis la fois que tu as bouché mon autre puits, puis la fois que tu as bouché, ça aurait fait quoi, vous pensez? Ça aurait dégénéré. Alors, la douceur de la remarque d'Isaac n'est pas le fruit de l'inconscience ni de l'insensibilité du mal que lui ont fait les Philistins. Alors, il sait cependant se contrôler en ne partant pas une guerre et une escalade verbale. C'est vrai, à l'escalade verbale, quelqu'un dit quelque chose, t'en rajoutes, lui en rajoute. C'est vraiment une escalade. Alors, des reproches, des accusations. S'il aurait été sur ce terrain-là, c'est fort probable que l'entente qu'il a prise avec eux n'aura pas fonctionné. Deuxième fruit que ça l'amène, le fruit de la générosité, verset 30. Et il leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Un ennemi vient te voir, il te demande quelque chose que tu considères comme déraisonnable, puis tu prends ton propre, ton stock, comme on dit, puis tu y fais pas seulement un repas, mais tu y fais un festin. Donc, un festin, ça implique ce qu'il y a de mieux. Donc, il a appris le fruit de la générosité. Malgré tout, il était généreux envers eux. Voyez-vous, Proverbe 15, verset 1 nous dit une chose par rapport à ça. Une réponse douce apaise la fureur, mais la parole dure excite la colère. Je me souviens, j'avais des confrères qui étaient de l'Assemblée à Ottawa. Ils allaient prêcher dans la rue. Eux autres, ils font ça depuis 15 ans. À tous les vendredis soirs, ils vont prêcher dans la rue sur un marché public à Ottawa. Et ils amenaient une petite colonne de son avec eux. Et il y en a qu'ils sortaient des hôtels un petit peu gommés, et ils prenaient plaisir à uriner sur la colonne de son. Et là, je me souviens qu'il y en a un qui nous avait fait un rapport et dit, il a été doux envers la personne qui a dit, qui a fait ça. Plutôt de dire, « Hey, mon cochon! » comme on aurait pu dire. Il a été doux. Et ça l'a fait en sorte que le gars il s'est senti coupable et s'est excusé. Quand la parole dit « une réponse douce apaise la fureur », mais la parole dure excite la colère. Et c'est vrai que s'il réagit en ayant une parole dure, ça aurait dégénéré en colère. Troisième fruit, le fruit du pardon, le fruit de la paix. Voyez-vous le verset 31, « Et ils se levèrent de bon matin ». Ils s'engagèrent l'un l'autre par serment, puis Isaac les renvoya et ils s'en allèrent d'avec lui en paix. La paix. Le Seigneur t'a donné la paix à cause que tu as su te comporter. Alors, l'engagement solennel, la volonté déterminée de respecter leurs paroles respectives, et bien sûr, dans le cas d'Isaac, lui, il le fait devant Dieu. Quand tu fais une chose solennelle, pour l'enfant de Dieu, tu le fais devant le Seigneur. Peut-être l'autre, plus ou moins, ou peut-être moins. Alors, le désir de paix est le fruit de leurs attitudes communes. Les deux ont agi correctement. Et l'avant-dernier, le fruit de la bénédiction providentielle. Ça, on ne le remarque pas dans le texte la première fois qu'on le lit. Il faut le remarquer. Verset 32. Et il arriva en ce même jour, c'est ça qu'il faut retenir, et il arriva en ce même jour que les serviteurs d'Isaac vinrent lui donner des nouvelles du puits qu'ils avaient creusé, et ils lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. La providence qui vient récompenser le bon comportement. C'est à remarquer, hein? Il arriva en ce même jour. On lit le texte. Lire les Écritures, là, il faut toujours les lire lentement. Il faut toujours laisser les versets venir nous parler. Parce que tous les versets enseignent quelque chose. Ici, bien entendu, nous montre que Dieu récompense ceux qui se comportent comme du monde. Il permet qu'un autre puits, puis là, ils ont trouvé de l'eau, puis ça va bien. Alors, lorsque les croyants se comportent selon la volonté de Dieu, la bénédiction ne tarde pas. Ça dit, en ce même jour. Le Seigneur permet que les serviteurs d'Isaac trouvent de l'eau dans le nouveau puits creusé. Et le dernier fruit, le fruit de la continuité, de la connaissance de la source divine. Autrement dit, il se rend compte que ce qui arrive vient de Dieu. Voyez-vous, le verset 33, « Et il l'appela Sheba, qui veut dire serment. C'est pour cela que la ville se nomme Beersheba, puits du serment jusqu'à ce jour. » Il vient s'inscrire dans la continuité du comportement de son père, Abraham. Beersheba, ça va commencer avec son père. Il vient redonner le nom de Beersheba à un nouveau puits. Il s'inscrit dans la continuité de l'alliance que Dieu avait prise avec son père et il continue dans cette direction-là. Isaac veut préserver la mémoire que c'est l'Éternel qui est la source de cette nouvelle bénédiction et il veut s'inscrire dans la continuité de l'alliance divine avec Abraham et avec sa descendance. Quel beau texte! C'est quelques versets, mais quelle de leçons qu'il y a dans si peu de versets. Puis je suis sûr que je suis loin d'avoir fait le tour. Il y en a encore plus que ça. Tous les versets sont d'une richesse qu'on ne peut même pas soupçonner. C'est pour ça que des fois, la Bible est difficile, parce qu'il y a beaucoup de stock dans la Bible, comme on dit. Trois applications. Première application, apprenons du comportement d'Isaac. Il réussit à surmonter la tentation d'antipathie qu'il aurait pu se développer dans ses relations avec les persécuteurs qui ont été injustes, violents, infidèles à leur engagement par alliance avec Abraham. Il sait cependant exprimer sa lucidité envers eux sans sombrer dans l'entretien d'un esprit belliqueux. Pourquoi tu viens ici? Tu m'haïs. Tu m'as jeté dehors, de fois vous. Mais il n'aura pas allé bien plus loin dans les reproches. Il le fait sagement. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'imiter Isaac quand les choses similaires nous arrivent. Et il va nous en arriver, ça c'est sûr. Deuxième application, sachons que l'éducation que nous avons donnée à nos enfants ne donne pas toujours les fruits souhaités. Nos enfants peuvent devenir pour nous des sources d'amertume et de grandes déceptions. Prions Dieu constamment pour nos enfants. La seule solution possible, aller au trône de la grâce, comme dans tous les problèmes. Peu importe le problème, tu es ta mère à cause de quelque chose, le trône de la grâce. N'y manquons pas. La troisième et dernière, lorsque nous traversons des épreuves en conformité avec les enseignements divins, sachons qu'il en résulte invariablement des bénédictions et de très nombreux fruits spirituels qu'on vient de les renommer, la générosité, le pardon, la paix et la continuité dans la persévérance dans le bien. Alors que notre grand Dieu soit adoré et loué éternellement. Amen. Et pip, pip, pip.